Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral. Si vous nous rejoignez, c'est le moment de notre émission avec Jean-Luc Delafontaine qui va nous présenter son gîte qui est situé à Marcos et tout ce qui s'y passe. Bonjour.
Bonjour Dil et bonjour aux auditeurs.
Bonjour Jean-Luc Delafontaine. On s'est déjà aperçu plusieurs fois sur le marché. Vous présentiez donc ce gîte. Alors, un gîte qui s'appelle Alter Ego. Ça s'écrit donc Alt comme la Alt, H-A-L-T-E. R.
On a le bon air.
Ego.
Tout simplement parce qu'il faut laisser la place au suivant.
D'accord. Vous êtes donc sur Digne depuis quelques années. Vous venez de Belgique ?
Alors, on est arrivé à Digne. On a d'abord acheté, ça s'est passé en deux temps, on a acheté la maison en 2017. Et sur cette maison, il y avait un petit gîte et un terrain à bâtir. Et puis, on s'est dit, bon, ben, plus tard, on verra bien pour y faire quelque chose. Et dans un premier temps, ben, on est venu tout simplement comme vacancier, régulièrement, et on avait mis un locataire dans la maison. Et puis, on s'est aperçu que le projet de construire peut-être quelque chose à Digne, ben, c'est quelque chose qui était trop fort en nous. Et du coup, ben, on a tout vendu en Belgique. J'avais une place avec un CDI avec plus de 25 ans d'ancienneté. Et en Belgique, il n'y a pas de rupture conventionnée. Donc, si on dit au revoir à son patron, on part les poches vides et puis on repart pour une nouvelle vie. Et c'est ce que le défi ou le tremplin qu'on s'est dit, OK, on va faire ça avant la retraite.
Et vous étiez dans le domaine de la décoration, c'est ça ?
Tout à fait. Donc, j'ai travaillé pendant 25 ans dans le domaine de la décoration où je formais, je dirais, des professionnels, qu'ils soient architectes ou peintres, aux manières de se protéger, étonnamment, déjà du chaud et du froid, par des solutions techniques, et là, en l'occurrence, par des tentures. Et maintenant, je propose un peu la même chose, mais de manière plus écologique.
Dans la construction, en fait.
Tout à fait. Donc, en fait, dans la construction, il y a deux parties. Il y a la partie, je dirais vraiment, on met la main dans le cambouis, on y va, on attaque. Et il y a la partie la plus importante et souvent négligée et qui représente 80% du travail. C'est toute la partie faite en amont. C'est toute la réflexion avant sur son projet. Et moi, je m'occupe uniquement de cette partie-là. Donc, je vais juste revenir un tout petit peu sur le point de départ. On a voulu mettre la région et le patrimoine en valeur. Et on ne voulait pas que notre bâtiment, entre guillemets, déteigne dans le village, parce qu'on voulait de l'intégration en plein centre du village de Marcos. Et du coup, on a choisi des techniques de construction qui ne sont pas tout à fait classiques dans la région. On a pris, par exemple, au lieu de faire des fondations comme tout le monde fait avec du béton, des choses ainsi, là, on a mis des pieux vissés dans le sol qui sont à plus de 7 mètres de profondeur. Donc, c'est comme si la maison était déposée sur des pilotis. Après, on a fait une construction entièrement avec des matériaux écologiques et on a aussi voulu mettre de l'humain dedans. Et vous allez directement comprendre, en fait, on a fait un chantier participatif. On a eu plus de 60 bénévoles qui sont venus du monde entier, du Canada, d'Écosse, de Suisse, de Belgique et bien entendu tous les coins de la France.
Comment on fait pour mettre en place un chantier participatif ?
Alors, en plus de ça, non seulement on avait cette difficulté-là, mais on a fait ça au départ de la Belgique. Donc, avec plus de 1000 km, on ne connaissait pas les gens ni les lieux. Donc, la préparation, ça a mis presque 3 ans pour mettre tout le projet en place.
3 ans, ok.
Et du coup, on a érigé ce bâtiment. Alors, ça a été relativement vite puisqu'on a fait une construction de 150 mètres carrés, je rappelle, par des amateurs, des gens qui ne connaissaient rien. Et évidemment, on s'est fait encadrer par les professionnels pour des étapes stratégiques. Et puis, le bâtiment, 250 jours, était déjà fini.
Mais alors, vous avez appris pour la construction ?
Alors, comment pas du tout. Là, c'est là la force un petit peu de tous ces chantiers participatifs. C'est qu'on a fatalement, on payait des professionnels qui venaient, mais ce n'étaient pas les professionnels qui venaient uniquement faire de l'abattage de travail. Ils étaient surtout là avec une mission pédagogique et d'enseigner à des gens. Et du coup, des gens qui sont venus chez moi, on pourrait dire « Ouais, mais c'est des gens qui avaient du temps, c'est des paumés de la vie ou des choses ainsi. » Je vous dirais que la majorité, c'était des ingénieurs, des chefs de projet chez L'Oréal, des gens qui ne se reconnaissaient plus en fait dans leur métier intellectuel, et qui ne se connaissaient plus dans la vie où il fallait courir, et qui avaient envie de venir à du vrai. Et du coup, quand on s'est donné ce projet de construction, ils sont venus une, deux, il y en a qui sont restés 7 semaines chez nous. Ils avaient aussi derrière certainement un projet eux-mêmes de construction ou de reconstruction de leur vie, parce que j'en ai plusieurs qui sont devenus, par exemple, d'ingénieurs, qui sont passés à maçons de la terre. Donc des choses, des changements drastiques dans leur vie. Et quand les gens viennent chez nous dans le gîte, j'ai toujours cette impression qui ressentent cette énergie positive qui a été donnée par tous ces bénévoles. Et c'est pour ça que c'est un lieu de vie, mais où la vie est déjà dedans, ce qui est rare dans un nouveau bâtiment.
Mais alors, vous avez dû quand même payer les professionnels.
Bien sûr. Oui. L'objectif, ce n'est pas de faire du travail au noir. Ouais. Les chantiers participatifs, ce sont des gens où on vient faire de l'échange. Ça peut être de l'échange, son temps, tout simplement parce qu'on avait du temps à donner. Ça peut être de l'échange contre de la connaissance. Donc, c'est un lieu d'apprentissage, en fait.
Donc, ça, 3 ans pour mettre tout ça en place. Comment sont reparties les personnes qui ont participé? Enfin, ils ne sont pas tous restés longtemps.
Alors, il y en a qui sont restés. Le minimum qu'on demandait.
Ça fait un roulement?
Tout à fait. Le minimum qu'on demandait aux gens, c'était qu'ils viennent une semaine, tout simplement, le temps de se mettre dans l'équipe, de se mettre en place et de trouver un peu ses marques aussi. Une fois, on devait aussi les loger. Donc, on avait aussi un gîte à disposition. Donc, on avait aussi cette capacité. Alors, certains venaient avec un camion, donc c'était plus facile. Mais effectivement, s'il n'y avait pas la logistique derrière, ça ne sert à rien d'accueillir des gens pour le plaisir d'accueillir. Donc là, l'objectif, c'était vraiment qu'ils passent un bon moment chez nous, qu'ils apprennent à connaître la région. Et on a créé aussi des formes d'amitié avec ces gens-là. Alors, une fois que le gîte a été créé, bien entendu, j'en ai certains qui sont venus gentiment nous redire bonjour et venir profiter du lieu dans lequel ils ont travaillé.
Alors, vous parlez de construction saine. Qu'est-ce qu'on appelle une construction saine ou les matériaux sains? Qu'est-ce que c'est?
Il faut savoir que le bilan carbone, on entend beaucoup parler de ça. Plus de 25% de la pollution au carbone de la France, mais aussi des autres pays aux alentours, est due à la construction. Donc, si maintenant, on peut avoir des matériaux qui sont plus sains, je prends par exemple des matériaux qu'on appelle géo ou biosourcés, comme du bois, de la paille, de la terre, et que tous ces matériaux, on arrivait à les mettre en place, ils donnent énormément d'avantages. D'abord, il n'y a pas de carbone pour les façonner. Comme ils sont locaux, il y a peu de transport. Le seul problème, c'est qu'on arrive parfois dans les régions où ce n'est pas quelque chose qui est connu, qui n'est pas habituel. Donc, on m'a un peu reproché au début en disant « Mais Jean-Luc, pourquoi tu n'as pas acheté ton bois local ?» Alors, on a été chercher du bois local. Mais le problème, c'est que les gens ne pouvaient pas nous fournir la quantité qu'on avait besoin, dans les délais qu'on avait besoin. Ils n'étaient pas séchés. Du coup, on a été voir un peu plus loin. Mais au lieu d'acheter par 3 bois à la fois et tous les jours aller chez le marchand de matériaux, là, ça coûte aussi beaucoup de consommation puisqu'il faut aller chercher à chaque fois avec son véhicule 2-3 bois. On a amené un semi-remorque complet en une seule fois. Du coup, on a un bilan carbone qui est encore raisonnable. Et on s'est aperçu, maintenant, ça fait quand même 3 ans que les gîtes sont finis, qu'il commence à y avoir des entreprises locales qui commencent à construire avec des méthodologies tout à fait écologiques. Et ça devient intéressant. C'est-à-dire, il y a une mutation des entreprises et la loi qui est sortie maintenant, qui s'appelle la loi climat et résilience. Alors, on peut voir ça comme le méchant bâton qui vient taper sur les entreprises. « Ouais, c'est pas sympa, nous, on faisait du béton, les parpaings, et on nous oblige à faire autrement. » Ça, c'est une vision des choses. L'autre vision des choses, il faut savoir que le secteur du bâtiment a très mal à l'heure actuelle. Il y a une baisse de 25 à 30% d'activité. Les constructions en ossature bois, avec des bons matériaux, n'arrivent pas à suivre. Donc, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. D'un côté, ceux qui faisaient d'une manière classique n'ont pas de travail, et l'autre n'arrive pas à suivre. Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant que les entreprises commencent à changer un peu leur fusil d'épaule en disant, tiens, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'apprendre un peu cette nouvelle technique-là? En plus, c'est plus sain pour la planète, c'est plus sain pour les habitants, et c'est pérenne pour mon entreprise. Mais on serait stupide de ne pas s'intéresser en tout cas à la chose.
Alors, Jean-Luc Delafontaine, donc on a bien compris, un gîte sain, ça veut dire qu'en cas de chaleur, comment on dit, climatisé. Enfin, il y a moyen d'avoir pas trop chaud au niveau de l'isolation.
Il y a un mot très scientifique ou barbare, je veux dire ça, et qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a derrière? D'ailleurs, je vais vous inverser, c'est moi qui vous pose la question. Si je vous parle de permaculture, ça vous parle un petit peu?
Pas trop, non.
Quand j'entends dans la rue, si on interviewe des gens et qu'on dit permaculture, on dit « Ah, mais ça, c'est la culture de la tomate !» Mais la permaculture, c'est en fait tout à fait quelque chose de bien plus vaste que ça. Et les anciens l'avaient très bien compris. Quand les anciens bâtissaient une maison, est-ce qu'elles étaient parallèles à la route ou bien tout petit peu en fonction du sens du soleil? Quelle était l'idée? C'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de chauffage. Donc, il fallait faire rentrer en hiver la chaleur, entre guillemets, du soleil. Mais en été, il fallait surtout s'en protéger. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? On mettait une pergola, on mettait dessus une petite vigne. Pourquoi? Parce que la vigne en été est assez dense, donc le soleil n'arrive pas à rentrer. Et en hiver, on coupe les feuilles et hop, le soleil rentre dans le bâtiment. Et ça, c'est ce qu'on appelle la conception de maison bioclimatique. Et ça fait partie de la permaculture. On va s'entourer de la nature et on voit que maintenant, les élus commencent à repenser ça. On commence à faire sauter du béton pour faire des plantations. Pourquoi? Parce que quand on met un arbre, ça donne de l'ombre, ça donne la brumification. Ça redonne toute vie, entre guillemets, que le béton n'a pas pu faire. Et je pense que c'est ça une construction écologique. Alors, dans la construction écologique, il y a un mot que je trouve très intéressant. C'est le mot de prendre soin de soi et soin de la nature. Prendre soin de soi, c'est par exemple, je pourrais faire la construction et travailler comme un nègre, je fais mon boulot et le soir, je vais tous les jours sous mon chantier pendant 2-3 heures, tous les week-ends, je travaille 15 heures d'affilée, mais je vais être sous les genoux. Je n'ai pas pris soin de moi. Vous voyez que la permaculture, c'est un peu plus que la culture à tomates. Et du coup, on va essayer de construire son projet dans le respect de soi, respect des matériaux et le respect de la nature. Et on va surtout travailler avec la nature et pas contre elle. Et je vois par exemple à Digne, il y a des magnifiques terrains que personne ne veut acheter, des terrains en pente, mais qui ont une orientation idéale. Et donc, quand on voit les gens s'amener, généralement on dit « Ah, mais si le terrain n'est pas plat, je ne peux pas l'acheter. » Mais les gens qui ont un peu moins de moyens, il existe plein d'astuces pour que cette maison, sur le long terme, ne coûte pratiquement rien. Et si elle est en pente, ben, cette maison ne sera jamais inondée non plus. Vous savez, dans le nord de la France, là, pour l'instant, ils ont eu pas mal de difficultés. Et des problèmes d'eau, il y en aura de plus en plus. On l'a vu, la chute d'eau qu'il y a eu hier à Digne. Et donc, des choses ainsi, il faut commencer à penser un peu autrement. Avant de dire, ah non, il faut que le seuil de la maison soit vraiment à plat. Vous voyez, on commence à réfléchir autrement. Et ça, je pense que c'est déjà une belle démarche à avoir.
Donc, ce gîte est terminé depuis 3 ans déjà.
3 ans, oui.
Et il est fonctionnel. Donc, il y a un gîte où vous recevez donc, des particuliers. C'est la possibilité de 2 fois 8 personnes.
C'est 2 fois 4 personnes, en fait. Ah, les deux gîtes sont jumelés l'un à l'autre et ils sont séparés. En fait, soit on dit, ben, tiens, on aimerait bien louer les deux bâtiments et comme ça, il y a une partie du moment, je suis par exemple en vacances avec mon beau-frère, je n'ai pas envie d'être H24 avec lui. Il y a des moments où on est chacun chez soi. Il y a des moments où on fait des activités communes. Et puis, il y a plein de vacanciers aussi qui apprennent à connaître d'autres personnes, d'autres régions. Et ça permet aussi de faire des belles rencontres. Et je dirais, en même temps, quand les gens viennent chez nous, il y a toute une décoration qui a été faite par quelqu'un de la région qui s'appelle Jérôme Alexian. Alors Jérôme Alexian, vos auditeurs le connaissent certainement, il est en trage avec son épouse, ils ont créé Millefolia. Ils font aussi de la découverte comme ça de fruits et de plantes de la nature que vous pouvez utiliser pour faire des baumes, pour en faire des tisanes, des choses ainsi. Et en même temps, on va essayer d'accueillir des gens qu'on appelle des enfants extraordinaires et offrir aux familles un moment de répit. Ça peut être fait avec des associations locales, ça peut être tout simplement les parents qui à un moment disent « Oh, mais on aimerait bien avoir 2 heures pour nous simplement aller au restaurant. » Et à ce moment-là, on amènera quelqu'un de professionnel qui pourra s'occuper des enfants. Ça peut être aussi par des activités sportives. Avec Andy Sport, par exemple, avec Alain, on pourrait faire des activités. Ça pourrait être avec Catherine, mon épouse, qui, elle, va faire de la médiation équine. Donc, on va essayer vraiment d'amener que ce moment de vacances soit autre chose que simplement un lieu où on dépose ses valises.
Médiation
équine.
Médiation équine, ok. Donc pour personnes extraordinaires.
Tout simplement, ou ça peut être aussi des personnes qui ont un problème, qui sont beaucoup trop introverties et qui n'osent pas s'exprimer. Et c'est vrai que si vous avez un animal de 500 kilos qui vient traîner autour de vous, c'est un peu impressionnant. Et si on arrive à surpasser cette peur, ça peut peut-être créer d'autres choses et qui peut débloquer des problèmes. Et du coup, on est une personne extraordinaire à un moment donné, parce qu'on l'est tous pour un problème ou l'autre. Et puis, à un moment donné, on passe au-delà de ça, et tant mieux.
Donc, ça, c'est à Marcoux.
Ça, c'est à Marcoux, en collaboration avec le manège local. Mais par contre, comme on veut aussi étendre cette activité un petit peu autour, il y a
en
d'autres manèges.
En collaboration avec donc le centre équestre de Digne, en fait.
Tout à fait. Après, on peut aussi aller un peu plus loin. Pour les gens qui voudraient allier ça avec la montagne, on pourrait aller du côté de Barle. Là, il y a aussi une magnifique installation équestre. On pourrait aussi aller dans d'autres lieux parce qu'il y a déjà des manèges existants, mais qui n'ont pas encore l'encadrement. Et là, Catherine, qui est diplômée dans ce domaine-là, ben à ce moment-là, elle peut se déplacer dans un lieu en fonction de la demande. On va avec le manège maintenant faire quelque chose d'extraordinaire, c'est aller avec des poneys dans un EHPAD. Ils vont monter dans l'ascenseur et les poneys vont passer de chambre en chambre. Et ça, ça crée aussi des relations et quelque chose d'un peu, de nouveau, extraordinaire. Et ça change un peu leur quotidien, je pense.
Donc ça, c'est en place.
Ça se met en place maintenant, oui.
Et donc, c'est aussi un lieu d'exposition, c'est ça que vous dites ?
Tout à fait.
Donc, c'est des expositions qui sont renouvelées régulièrement ?
Alors, pour l'instant, depuis le début, donc, Jérôme nous a fait confiance. Il a mis des tableaux et des mobiles dans l'ensemble du bâtiment. On recherche encore d'autres artistes pour exposer, par exemple, des lampadaires à partir de bois flotté, des choses ainsi. Donc là, on est toujours à la recherche. Maintenant, Jérôme doit commencer aussi à faire vivre ce lieu. Alors, on le montre, ses œuvres, à des gens qui sont en vacances chez nous, qui peuvent éventuellement prendre contact et aller jusque chez lui. Mais on peut aussi maintenant inverser les propos. Par exemple, dans la saison plus calme, on sait bien qu'à Digne, en hiver, c'est un peu plus compliqué, location. Eh bien, à ce moment-là, ce lieu, on doit y donner vie. Par exemple, il pourrait dire, ben, jeudi, j'organise un drink. Et j'invite à ce moment-là un tas de gens. Mais au lieu de voir des œuvres tout simplement accrochées dans un mur, entre guillemets, hors contexte, on les voit déjà dans une maison. Et du coup, je pense qu'on se représente déjà beaucoup mieux ce que ça pourrait donner chez soi. Et c'est plus, je pense que l'achat est plus facile aussi.
C'est sympa, ouais, c'est une bonne idée. Et vous faites aussi donc une formation en ligne sur l'éco-construction. Comment ça se passe?
Alors, on a bien dit éco-construction. Moi, je dirais, j'irais un peu plus loin que ça, éco-conception. Parce que la majorité des problèmes que l'on a dans les maisons, à l'heure actuelle, du chaud, du froid, c'est compliqué de les résoudre maintenant parce que la maison ne pouvait pas changer son orientation face au soleil. Vous ne pouvez pas commencer à démonter tous les murs et remettre les baies vitrées ailleurs. Du coup, quand on part sur un nouveau projet, c'est toutes des choses qu'on aurait pu anticiper. Et on peut anticiper à tel point que les factures d'énergie, que ce soit pour le chaud ou le froid ou l'eau, peuvent être réduites de 70% de manière gratuite, sans y mettre quelque chose de technologique, tout simplement par la bonne orientation. Après, il reste encore 30% d'énergie, mais là, il existe des moyens de récupérer l'eau de pluie, de la refiltrer, de la faire rentrer dans le bâtiment. Vous savez que, par exemple, dans l'eau potable que l'on prend, sur 100 litres qui rentrent dans votre bâtiment, il n'y a que 16 litres qui devraient réellement être potables. Donc, ça serait intéressant de peut-être réfléchir comment utiliser l'eau autrement. Si je prends au niveau de l'électricité, c'est pareil. Souvent, on va dire, oui, mais il faut refroidir le bâtiment avec de l'airco. On a dit le mot tout à l'heure. Ou le chauffer. Et si maintenant on avait un bâtiment tellement bien isolé que ni le chaud ni le froid seraient un problème? Nos gîtes, on n'a pas d'airco. Quand il y avait 42 degrés au pied du mur, on n'a jamais dépassé 25 degrés chez nous. Et vous voyez, ce sont des choses qu'on a fait dès le départ qui permettent après de ne pas devoir dépenser de l'argent pour corriger un problème qu'on n'a pas bien fait au départ. Et ça, ça fait partie de la conception. Et du coup, ben, les gens suivent une formation en ligne. Par contre, quand on suit une formation en ligne, elle est axée évidemment pour monsieur même tout le monde avec toutes les informations. Donc, ce n'est pas votre projet à vous. Et ce que je propose, et c'est là où on a passé une certification qui s'appelle Calliope, qui permet justement d'encadrer les personnes avec un certain nombre d'heures pour que ce projet soit personnalisé et qu'à la fin du cursus, qui ne dure que 3 mois, donc c'est très rapide et avec raison de 1 à 2 heures maximum par jour, on a carrément son permis de bâtir qui est déjà prêt à être déposé.
Et vous parlez aussi de week-ends expérimentaux.
Alors, je n'en ai pas encore parlé. L'idée, c'est quoi? De nouveau, à Digne, on a ce problème de début de saison. C'est compliqué, on voit qu'il n'y a pas grand-chose. Pourtant, la région mérite d'être vécue, mais au fil de toute l'année. On dit qu'il fait plus beau, plus pratiquement 300 jours par an. Donc, c'est un peu dommage. Vous savez, je parle d'écologie, là, on gaspille un petit peu notre terroir. Et les commerçants locaux, les restaurants, les agriculteurs, des choses ainsi, ben, ils seraient intéressés quand même qu'il y ait des touristes toute l'année. Alors oui, on a un peu par les thermes, mais on sait que les thermes, ça a connu une période de gloire et puis que c'est un peu plus compliqué. Du coup, il faut peut-être amener d'autres formes de tourisme. Et ce qu'on a décidé de faire, alors on va faire une première tentative pour la saison prochaine, à partir du mois de mars, c'est de louer non pas un gîte, mais un lit. Et du coup, on va créer des week-ends d'expérimentaux où il y aura des thématiques différentes. Par exemple, une thématique est sur le vélo. Mais si j'invite simplement les gens à aller aux Terres Noires, ben là, entre guillemets, il n'y a peut-être pas besoin de moi. Donc, on a trouvé un guide qui va proposer quelque chose d'extraordinaire. On va partir pratiquement de Barcelonnette et on va faire pratiquement 80 km en descente libre, avec un accompagnement qui est pris dedans. Et ça, ce sont des choses pratiquement impayables parce que vous ne pourriez pas payer ce guide si vous étiez seul. Et là, le fait de mutualiser ce guide pour le groupe va permettre de faire des choses tout à fait extraordinaires avec un prix qui reste tout à fait accessible à monsieur et madame tout le monde. Ça, c'est une thématique sur le vélo. Avec, qu'est-ce que je dirais, on a un accompagnateur pour les guides, puisque fatalement, on a l'art en montagne. Donc, ça me paraît logique qu'on va aller voir les œuvres qui sont dissimulées dans la région de Digne-les-Bains. On va avoir un week-end, bien entendu, sur l'éco-construction, où non seulement ben, je partagerai un petit peu quelques valeurs qui sont dans ma formation, mais en même temps, on ira visiter des lieux. Parce que sachez qu'il est juste à côté de chez vous, ici à Digne-les-Bains, il y a des choses extraordinaires. On a une maison Earthship, c'est une maison à moitié enterrée, à côté de Sisteron. Plus proche, à Saint-Aubin, j'ai contribué un tout petit peu à aider, on a fait l'isolation d'un bâtiment qui sert de collectif avec de la paille. Il consommait mais une fortune en chauffage, et maintenant il ne consomme pratiquement plus rien. Et ça, ça a été fait avec un collectif. Il y a une boulangerie qui est en train de se faire au Brusquet. Tiens, cette boulangerie, ça a été fait avec des murs en quoi? En bois et en paille. Donc, il y a des choses extraordinaires juste à côté. Et lors de ces week-ends, justement, on va montrer aux gens plus des plans, plus des imaginaires, mais des réalisations déjà finies et réalisées.
Alors, quand on parle de bois et de paille, on a peur aussi des incendies. Ça brûle bien, ça.
Ah, ça, c'est la magnifique idée que Walt Disney a eue. Alors, ce n'est pas Walt Disney qui l'a eue. Il faut savoir qu'aux États-Unis, avant, on construisait en bois et en paille. Et puis, à un moment donné, le béton est arrivé et le béton n'arrivait pas à vendre. Et du coup, ils ont fait une commande à Walt Disney en disant, mets-nous un super dessin animé, il y a une histoire qui existe déjà, et mets-nous ça en valeur. Et comme ça, ben, si jamais les gens voudraient encore faire construire en bois et en paille, les enfants seront leurs pires ennemis en disant, mais papa, tu ne vas pas nous faire ça, on va mourir. Et l'industrie du béton a réussi son pari puisque tout est construit avec du béton. Je reviens deux secondes là-dessus. Il faut savoir que la botte de paille ne brûle pas. Elle se consume. Donc quand il y a un incendie, pareil pour l'ossature bois. Quand vous avez une poutre en béton ou une poutre en ferraille, à un moment donné, elle va plier et elle va céder sur la tête des pompiers. Si vous mettez ça en bois, avant d'atteindre le cœur de la poutre, il faudra beaucoup plus de temps. Donc un pompier est 10 fois plus rassuré s'il rentre dans un incendie d'une maison en ossature bois qu'en béton. En plus, vous savez très bien que l'isolation avec du polystyrène et tous ces mots un peu bizarroïdes, c'est du pétrole. Pourquoi est-ce que les maisons flambent en deux secondes ? On met du pétrole partout autour de nous. Et je pense que c'est ça un petit peu le côté rassurant. Donc ça, on va vite l'oublier. Les pompiers, ils sont tout à fait avec nous. La preuve, c'est qu'il y a eu des changements de loi. Mais il a fallu aussi le temps de changer un peu nos habitudes. Et vous savez, la construction, ça tue bois, terre, paille. On a l'impression que c'est moderne. Mais c'est vieux comme le monde.
Dans certains pays d'Afrique, il y a des constructions écologiques.
Ça, et depuis qu'ils ont instauré le béton et les tôles, vous savez où est-ce qu'ils dorment les Africains en été ? Dehors. Donc ils ont construit une maison pour aller dormir dehors. Mmh. Et si maintenant on revient un peu en France, vous savez qu'en France, il y a encore plus de 40% du territoire bâti qui est fait avec du bois, de la terre et de la paille.
40%.
40%. Mmh. Et on dit que c'est novateur, non ? Mmh. On a simplement réappris ce qu'on connaissait avant. Et l'avantage de ça, c'est quoi ? C'est que la terre, elle est locale. La paille, elle est locale. La paille, c'est du recyclage, c'est de l'écologie. La paille, c'est quoi ? C'est un déchet. Et on a une paille extraordinaire ici dans la région de Digne. C'est la paille de lavande. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant les fermiers ? Ils la brûlaient sur place. Depuis 3 ans, ils ont l'interdiction de le faire. Et du coup, cette paille, qu'est-ce qu'on en fait de ce déchet ? C'est une matière première pour isoler nos murs. Et le gros avantage qu'elle a, c'est que la paille de riz ou la paille de lavande est une des meilleures pailles pour l'isolation. Et surtout, elle est locale. Donc restons dans ce circuit un peu de penser localement. Et vous allez voir qu'il y a moyen de construire une maison qui soit saine. Parce qu'il faut savoir que, je dirais comme mode conclusion, l'air intérieur d'une maison est 8 fois plus pollué que l'air extérieur. Et ça, personne ne le sait. Or, quand on fait une maison, la première chose, on prend soin de sa famille en les mettant dans un lieu sûr. Et je pense que ça, c'est déjà la première base de réflexion en disant, est-ce que l'air chez moi est sain ? Est-ce que j'offre un beau cadre à mes enfants ? Et après, on verra la suite.
Merci beaucoup, Jean-Luc de La Fontaine, pour votre intervention, pour qu'on sache un peu plus sur ce qu'est la construction de maison saine, hein, et donc avec toutes les animations que vous prévoyez aussi. Donc il y a la location de gîtes, il y a la formation en ligne.
Tout à fait, donc ça, si vous allez sur le site jebâtismamaison.com, vous aurez toutes les informations. Et ce que je fais très souvent, ce sont des gens de table ronde dans lesquels, évidemment, je parlerai de ma formation, mais surtout, on donne de la valeur. Et ça peut peut-être vous donner des idées. Donc moi, je vous invite simplement à aller sur le site jebâtismamaison.com. Laissez-nous en contact disant « Je suis intéressé d'être invité à la prochaine table ronde. » Et comme ça, ben, vous aurez un peu plus ce que c'est qu'une construction, tu vas dire, extraordinaire, mais qui en fait est tout à fait banale.
Merci Jean-Luc et bonne journée et à bientôt.
Merci pour l'invitation. Au revoir.
Au revoir.
J'adore Fréquence Mistral 99.3 à Digne-les-Bains.